Il est juste 5h30 à Khartoum, même heure à Paris, 3h30 en temps universel.
Édouard Dupenois.
Vous êtes sur Radio France Internationale, nous sommes ensemble pour une première édition africaine et une très large place accordée au Soudan. Ce 15 avril marque les 2 ans des premiers coups de feu dans Khartoum. La fracture définitive entre armées régulières et forces de soutien rapide, devenue en quelques jours une guerre sanglante, guerre qui n'a toujours pas pris fin, qui fait toujours autant de morts, de déplacés internes et de réfugiés internationaux. Nous lui consacrons une très large place tout au long de cette journée. Et donc, dès le début de ce journal, l'actualité africaine aussi en République démocratique du Congo, où la mission de l'ONU réfute fermement les accusations du M23. La MONUSCO n'est responsable en rien des violences survenues à Goma dans la nuit de vendredi. Le ton qui se refroidit une fois encore entre l'Algérie et la France. Alger demande le départ de 12 agents français. Réponse à la mise en examen en France de 3 personnes, dont un employé consulaire. Et puis un premier procès attendu en Afrique du Sud pour crime d'apartheid. Un assassinat qui sera jugé au regard spécifiquement de ce régime ségrégationniste raciste. Aux premières heures du 15 avril 2023, la fragile coalition civile et militaire qui dirigeait le Soudan éclatait définitivement en morceaux. Et depuis cette date, le pays est traversé par l'une des guerres les plus violentes du monde. 13 millions de personnes ont dû quitter leur domicile pour échapper au combat entre 2 forces armées rivales. Chacune étant persuadée, encore aujourd'hui, qu'elle peut écraser l'autre militairement. Une 20aine de pays et d'organisations ont rendez-vous aujourd'hui à Londres. Conférence internationale sur cette guerre au Soudan pour essayer de trouver la voie à suivre pour mettre fin aux souffrances des populations selon les termes des organisateurs. Que s'est-il passé pour que la révolution qui avait permis de déchoir un dictateur au pouvoir depuis 30 ans se soit donc transformée en bain de sang? C'est d'abord Alexandra Branjon qui remonte le fil.
Début 2019, le Soudan est secoué par des manifestations contre la vie chère qui vont rapidement se transformer en mouvement contre le régime du président Omar al-Béchir. Après plusieurs mois de contestation, celui qui dirige le pays depuis 30 ans est arrêté et les militaires prennent le pouvoir. À leur tête, le général Abdel Fattah el-Burhan, à ses côtés le général Hamdan Daglo dit Hemeti, chef des forces paramilitaires, une force mise sur pied 20 ans plus tôt pour mater la rébellion dans la région du Darfour. Sous la pression internationale, les 2 hommes vont partager le pouvoir avec les civils, mais la cohabitation est houleuse et les militaires finissent par dissoudre le gouvernement de transition. La rivalité et les tensions déjà existantes entre les 2 généraux éclatent alors au grand jour, chacun s'accusant de vouloir écarter l'autre. Le 15 avril 2023, des combats éclatent en plein centre de Khartoum et vont rapidement s'étendre au reste du pays. Depuis 2 ans, le Soudan est littéralement coupé en 2. Les 2 belligérants sont convaincus de pouvoir vaincre l'autre militairement et refusent de négocier.
Et cette guerre évolue donc au rythme des conquêtes militaires des 2 camps. Ces derniers jours, par exemple, les FSR ont revendiqué d'avoir pris le contrôle du camp de Zamzam dans l'ouest du pays, l'un des plus grands sites de déplacés du Soudan. Une conquête au prix d'un bain de sang pour les civils, selon de très nombreux témoignages. Début avril, en revanche, ces mêmes paramilitaires reconnaissaient la perte de Khartoum. La capitale a été le théâtre de combats intenses depuis l'éclatement du conflit. Elle est définitivement repassée aux mains de l'armée régulière. Nous avons pu y joindre Doua, une jeune femme qui raconte qu'elle a vécu ces événements comme une libération.
Ce qu'on ressent depuis que les FSR ont quitté Khartoum est énorme. On est excités, contents, on fait la fête, on vit. Je suis allée à Omdurman, la ville jumelle de Khartoum, pendant 4 jours et j'avais l'impression d'être en vacances. On peut maintenant se déplacer dans toute la ville, voir des quartiers auxquels on n'avait pas accès depuis 2 ans. On peut sortir, acheter à manger sans que ce soit dangereux. Avant, vous pouviez vous faire kidnapper juste pour 2 dollars et pour les femmes, il y avait toujours le risque de se faire violer. Maintenant, on peut enfin dormir tranquille. Ça faisait 2 ans que je ne dormais pas. Je peux sortir, acheter à manger. Vous imaginez? Mon bébé n'a jamais bu de lait, ni de jus de fruits. La vie sous les paramilitaires était réduite au minimum. On ne vivait pas, on survivait. Aujourd'hui, nous sommes soulagés, mais pas complètement heureux, à cause de ce qui se passe au Darfour.
13 millions de déplacés en 2 ans de guerre, quasiment 4 millions en dehors même des frontières du pays. Le Tchad, voisin de l'Ouest, est l'un de ceux qui accueillent le plus de Soudanais, plus 1 million selon le HCR. L'immense majorité d'entre eux entrent par le point de passage d'Adré, frontalier du Soudan, après un périple qui dure parfois pendant plusieurs semaines et qui laisse ces réfugiés complètement exsangues. Victor Moria, envoyé spécial de RFI, s'y est rendu. Reportage.
Rada Adam Abderrahman Matar est arrivée depuis quelques heures seulement à Adré, au poste secours de la Croix-Rouge. Partie il y a 3 jours de Niala, capitale du Darfour du Sud, elle est épuisée, mais raconte ne pas avoir eu d'autre choix que de partir.
La guerre ne veut pas s'arrêter, on a donc été contraint de partir. Et puis on a faim, on souffre beaucoup. Mes enfants n'ont pas de quoi manger et n'ont pas d'entrée d'argent. C'est pour ces raisons qu'on a quitté le pays. Souvent, on ne mange rien de la journée, mais ça peut durer jusqu'à 2 ou 3 jours sans rien avaler. La famine est répandue partout au Soudan et c'est à cause de la guerre.
Nimat Haroun Hamis Mahamat, 26 ans et 4 enfants, vient elle aussi de Niala. Elle a franchi la frontière en même temps que Rada.
Les avions nous bombardent puis ils partent. Souvent, ça se passe en pleine nuit quand on dort. Et au réveil, on découvre qui a été bombardé pendant qu'on dormait. Un bombardement a tué ma tante et ses 6 enfants dans leur propre maison.
Depuis un an, Mahmoud Mahamad Bari, un Tchadien de 56 ans, fait des allers-retours entre les deux villes frontalières, Adré côté tchadien et Adinkong côté soudanais. C'est lui qui a amené les 2 femmes sur sa charrette et des réfugiés, il en a vu passer des milliers ces 12 derniers mois.
Ils sont sans le sou, leur situation est dramatique. Certains n'ont rien mangé pendant 2 à 3 jours. Ils ont tellement faim qu'ils sont prêts à manger n'importe quoi.
Nimat et Rada ont été prises en charge par le HCR afin de rejoindre leurs centaines de milliers de compatriotes dans les camps tchadiens. Victor Moria, Adré, RFI.
On reparle longuement du Soudan tout au long de RFI Matin. Après ce journal, reportage avec des réfugiés qui se reconstruisent cette fois au Kenya, édition spéciale aussi à suivre dès 6h en temps universel. Autour d'Arnaud Pontus et de ses invités. RFI. La MONUSCO réfute à son tour vivement les accusations de l'AFC M23. Le mouvement armé soutenu par le Rwanda accuse, entre autres, la mission de l'ONU en République démocratique du Congo d'être responsable des événements violents survenus à Goma il y a 3 jours. L'armée congolaise et les forces de la SADC ont déjà fermement démenti être derrière ces violences. Et Pauline Azidi, la mission onusienne embraye à son tour.
Naïdi Kadilo, porte-parole de la mission, dément fermement toutes ces accusations. Selon elle, aucune de ces bases n'a été utilisée pour planifier des attaques sur Goma. Pour la responsable onusienne, une nouvelle fois, on se sert de la MONUSCO comme bouc émissaire.
La MONUSCO est présente en RDC pour appuyer le gouvernement dans ses efforts de protection des civils, de rétablissement de l'autorité de l'État et de stabilisation. Dans un contexte de tension et de désinformation, il arrive que notre mission devienne cible de frustration liée à une situation sécuritaire complexe où de multiples acteurs armés continuent de menacer les populations civiles. Nous comprenons ces frustrations, mais nous insistons sur la nécessité d'un dialogue franc et factuel pour rétablir la confiance.
La MONUSCO qui confirme avoir toujours sous sa protection à Goma plus d'un millier de militaires et de policiers congolais.
Ces personnes se sont rendues dans nos bases fin janvier où ils ont été accueillis dans plusieurs bases de la MONUSCO dans Goma et ses environs. Malgré l'environnement extrêmement volatile et les pressions sécuritaires, la MONUSCO a réussi à garantir la sécurité, l'intégrité physique et le bien-être de ces personnes sur la durée, en conformité avec son mandat établi par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
Mais la mission insiste, tous ces combattants ont été désarmés quand ils ont été accueillis dans les différentes bases. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Kinshasa, où il est 4h39, même heure à Alger, l'Algérie qui confirme qu'elle demande le départ de 12 agents français présents sur son territoire. Elle parle d'une décision souveraine. Les relations entre les deux pays tanguent donc de nouveau une semaine après que la visite à Alger de Jean-Noël Barrot a pu faire croire qu'elle se stabilisait. En fin de semaine, la justice française a mis en examen 3 personnes, dont un agent consulaire algérien. Elles sont suspectées d'avoir séquestré en France un opposant politique algérien. Et cette expulsion, Magali Lagrange, est donc la réponse des autorités algériennes.
Ils ont 48 heures pour quitter le territoire algérien. 12 agents français qui exercent auprès de l'ambassade et des consulats de France en Algérie déclarés persona non grata. Une décision souveraine selon un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères hier soir en réponse à l'arrestation en France d'un agent consulaire algérien. Vendredi dernier, 3 ressortissants algériens dont un employé d'un consulat ont été mis en examen en France, notamment pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en relation avec une entreprise terroriste. dans le cadre de l'affaire autour de l'influenceur Amir Dezed, opposant au régime algérien exilé en France. Dans son communiqué, l'Algérie tient le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, pour entièrement responsable de la tournure que prennent les relations franco-algériennes au moment où elle venait d'entamer une phase de décrispation à la faveur de l'entretien téléphonique entre les deux présidents. Côté français, la décision d'Alger avait déjà été annoncée par le ministre des Affaires étrangères. Jean-Noël Barrot demandait à Alger de renoncer à ses expulsions, faute de quoi la France n'aurait d'autre choix que d'y répondre.
Magali Lagrange, la justice sud-africaine va, pour la première fois de son histoire, juger un crime en tant que crime d'apartheid. Deux personnes, un ex-policier et un ancien indique, vont comparaître pour l'assassinat de trois militants contre ce régime raciste en 1982. Ce ne serait certes pas le premier procès pour un crime commis pendant cette période ségrégationniste, mais ça sera le premier où les accusés seront poursuivis pour le crime d'apartheid proprement dit. Explication à Johannesburg, Claire Bargelès.
Selon les défenseurs des droits humains, il s'agit d'une décision historique. Aucun accusé n'avait jusqu'à présent été poursuivi pour le crime international d'apartheid, reconnu par les Nations Unies et le statut de Rome. Il aura fallu l'implication des familles des victimes et de la société civile, ainsi que la volonté du procureur rattaché à ce dossier, pour que plus de 40 ans après les faits, un tel précédent ait lieu. Ce procès prend donc une autre dimension, puisque ces anciens collaborateurs du régime ségrégationniste doivent désormais répondre non seulement de leurs actions individuelles, mais aussi de leur participation au sein d'un système d'oppression plus global. Près de 30 ans après la commission Vérité et Réconciliation, plusieurs autres procès et enquêtes sont en cours pour enfin finir de faire la lumière sur cette période de l'histoire sud-africaine, avec notamment la réouverture du dossier autour de la mort jugée accidentelle d'Albert Luthuli, ancien président de l'ANC et prix Nobel de la paix, percuté par un train en 1967. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
La frontière maritime entre Madagascar et les Comores semble se rapprocher encore davantage de sa réouverture et pour de bon cette fois. Il y a 6 semaines, Antananarivo avait annoncé une réouverture de son côté, mais en maintenant des contrôles sanitaires stricts, officiellement pour prévenir des cas éventuels de choléra. Des mesures qui déplaisaient côté Moroni. Les Comores maintenaient donc elles aussi une forme de blocage, en passe désormais d'être levée, Guillaume Fabry.
C'est l'assouplissement des contrôles sanitaires imposés par Madagascar qui a convaincu les Comores de lever leur blocage. Mercredi dernier, le gouvernement malgache a supprimé la prise obligatoire de médicaments préventifs pour les passagers en provenance de l'archipel voisin. Cette mesure contestée par les Comores n'a été que très peu appliquée, puisqu'en l'espace d'un mois, seule une poignée de voyageurs ont été autorisés à rejoindre la ville de Majunga sur la côte nord-ouest de Madagascar. En sens inverse, 3 bateaux malgaches transportant passagers et marchandises ont accosté aux Comores il y a 2 semaines avant d'être empêchés de repartir vers la grande île. Une situation de blocage intenable pour la région de Majunga qui dépend fortement de ses exportations de riz et de légumes vers l'archipel voisin. Plusieurs opérateurs économiques ont ainsi écrit au gouvernement malgache la semaine dernière, lui demandant de trouver une solution équilibrée et pérenne. La reprise effective des navigations, espérée dans les prochains jours, serait un nouveau signe d'apaisement entre les deux voisins, un mois après le retour à Madagascar de 28 lingots d'or saisis à l'aéroport de Moroni en 2021. Guillaume Fabry, Antananarivo, RFI.
Il est 6h43 à Antananarivo.
Afrique Matin sur RFI.
Et la suite du programme en un coup d'œil, c'est l'Europe qui est prête, semble-t-il, à taxer les importations d'engrais russes. Tandis que le continent africain se demande si la zone de libre-échange économique, la ZLECAF, peut servir de palliatif aux États-Unis et à leurs droits de douane aléatoires. Dossier Afrique Économie dans un peu plus de 5 minutes. Mais le retour donc, comme promis, sur cette guerre civile soudanaise, 2 ans de conflit et ses répercussions qui dépassent très largement les frontières même du continent africain. Avec un premier paradoxe, la couverture médiatique de cette guerre est relativement faible, mais ses secousses sont pourtant très concrètes, bien au-delà des frontières du Soudan. Nous recevons pour en parler un très haut responsable du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, Abdourahouf Nyokondé. Il dirige les régions Afrique de l'Ouest et Afrique centrale du HCR, et il est le grand invité Afrique de RFI ce matin avec Léa Lisa Westerhoff.
Abdourahouf Nyokondé, bonjour.
Bonjour.
2 ans après le début du conflit au Soudan, la violence a encore franchi un cap ce week-end au Darfour avec l'attaque et la prise du camp de déplacés de Zamzam. 13 millions de personnes déplacées de force à l'intérieur du pays comme au-delà des frontières. En tant que directeur régional du Haut Commissariat aux réfugiés pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, comment est-ce que vous qualifiez cette crise ?
D'abord, c'est de dire que c'est une crise humanitaire aiguë. C'est la pire crise humanitaire au monde après Gaza. Mais malheureusement, on n'en parle pas assez. Et je pense que justement, à 2 ans du rappel du début de cette crise, c'est important que vous puissiez nous donner cette opportunité de souligner les conséquences de cette crise et d'appeler les uns les autres à réellement trouver une solution politique à l'intérieur du Soudan.
Vous rentrez du Tchad, où vous vous êtes rendu la semaine dernière. Ce pays frontalier joue un rôle particulier dans la guerre civile. Quelles répercussions la guerre civile a-t-elle sur le Tchad ?
Une des conséquences immédiates, c'est que les populations, elles vont chercher un lieu de refuge. Et le lieu de refuge le plus près pour certaines d'entre elles, c'est le Tchad. Et on a pu voir des populations arriver, qui continuent d'arriver. Et certaines viennent même depuis Khartoum. Et qui ont traversé donc des conditions vraiment difficiles. Et depuis avril 2023, le Tchad a déjà reçu près de 800 000 nouveaux réfugiés soudanais. Et cette année, le Tchad a déjà reçu 50 000 nouveaux réfugiés soudanais depuis le début d'année. Et malheureusement, nous nous attendons, avec ces attaques auxquelles vous faites allusion, à davantage d'arrivées. Donc vous voyez, pour un pays fragile comme le Tchad, avec une population de 17 millions d'habitants, sans oublier d'autres réfugiés présents sur le territoire. Les réfugiés nigériens qui sont là, dans la région du lac Tchad, et les réfugiés centrafricains, et des déplacés internes, c'est extrêmement lourd.
Tous les regards sont aujourd'hui tournés vers le Darfour. Est-ce que vous craignez que la chute de Khartoum conduise à une aggravation des violences contre les civils dans cette partie ouest du Soudan ?
C'est une source de préoccupation dans cette partie ouest du Soudan. Une préoccupation parce que si les combats se rapprochent de la frontière du Tchad, la crainte immédiate, c'est de voir ce que nous appelons en anglais le spillover, donc un débordement de la crise sur le territoire du Tchad.
D'un point de vue régional, quelles conséquences cette crise, ces 2 années de guerre civile du Soudan ont-elles sur les pays frontaliers, sur les régions ?
On a observé des mouvements de population vers le Tchad, nous en avons déjà parlé, mais aussi des mouvements de population vers la Centrafrique. La Centrafrique a déjà accueilli à ce jour à peu près 40 000 Soudanais dans une partie frontalière assez difficile, Birao-Korsi. Mais il n'y a pas que la Centrafrique, il y a aussi l'Égypte, il y a l'Éthiopie, il y a le Sud-Soudan. Et nous connaissons tous la situation dans laquelle se trouve donc le Sud-Soudan. Et la conséquence, elle va bien au-delà de la région. Parce que à la frontière entre le Tchad et le Soudan, nous voyons des populations arriver qui transitent par le Tchad et qui continuent jusqu'en Libye, voire la Tunisie, et qui ont vocation à continuer en Europe. Donc pour nous, ça montre que la conséquence, elle va bien au-delà des pays voisins, elle va bien au-delà de la région, et malheureusement, on voit davantage donc de Soudanais qui essaient d'arriver aux portes européennes.
Il y a aussi la question du financement des activités humanitaires. Quel impact la coupure des financements américains a-t-elle sur cette crise au Soudan ?
Elle nous contraint à faire des choix extrêmement difficiles. Au Tchad, déjà depuis 2003, nous avions déjà les Soudanais qui étaient là et nous étions en train de travailler à trouver des solutions d'intégration de ces populations. Mais malheureusement, aujourd'hui, avec cette baisse de ressources, nous sommes obligés de nous concentrer sur la réponse d'urgence dans les zones les plus fragiles.
Quelle est votre crainte ? Qu'est-ce que vous craignez que ça puisse susciter sur une crise comme celle du Soudan ?
La crainte immédiate, c'est de ne pas être en capacité d'apporter la plénitude de réponse déjà pour les besoins immédiats. Dans la région, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, on parle de 14 millions de déplacés de force. Aujourd'hui, dans cette région, 61% des enfants en âge d'aller à l'école, âgés de 6 à 17 ans, sont hors des circuits d'éducation. Donc comment continuer à prendre en charge ces questions de besoins qui vont bien au-delà de la simple question donc humanitaire si on n'a pas les ressources adéquates ?
Abdourahouf Nyon-Kondé, merci.
Je vous remercie.
Cet entretien avec Abdourahouf Nyon-Kondé, qui dirige les régions Afrique de l'Ouest et Afrique centrale du Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, vous pouvez le réécouter sur notre application RFI Pure Radio. Signe de cet éclatement du conflit dont nous parlait à l'instant notre invité. On trouve plus de 11 000 réfugiés soudanais jusqu'au Kenya, à près de 3 000 kilomètres au sud de Khartoum. Certains ont tout abandonné derrière eux dès les premiers jours du conflit. Et même si la libération de la capitale annoncée comme telle par l'armée régulière en a convaincu de rentrer au Soudan, d'autres ne s'y voient encore aucun avenir. Ils ont repris un quotidien, des études, un boulot au Kenya, en attendant mieux. Reportage signé Gaël Lalex.
Dans le quartier de Kilimani, le Raïta est devenu le rendez-vous de la jeunesse soudanaise. Dans ce petit restaurant pas de manière, on y mange comme à la maison. Ahmed Al-Badawi, son fondateur.
Nos clients sont des Soudanais, des Somaliens et des Éthiopiens. Votre restaurant, c'est une sorte de refuge alors ?
Oui, quelque chose comme ça, mais on n'aime pas les appeler des réfugiés.
Quand on a fui la guerre, c'est important de reconstruire quelque chose ?
Bien sûr, notre vie est finie au Soudan avec cette guerre. Il faut tout recommencer pour survivre.
Est-ce qu'après la guerre, vous seriez prêt à être gouverné par un des deux généraux ?
Non, pendant la révolution, on disait... À chaque fois, nous referons la révolution si le gouvernement n'est pas bon pour nous.
Les généraux Abdel Fattah al-Burhan, à la tête de l'armée soudanaise, et Mohamed Hamdan Daglo, dit Emeti, chef des forces de soutien rapide, se mènent une guerre sans pitié depuis 2 ans. Mabio Swaleh, 24 ans, a fui Khartoum dès les premiers bombardements.
J'ai laissé derrière moi mon père, mes petits frères, même ma mère. Je ne sais pas comment ils vont, s'ils sont en sécurité. La vie au Soudan est très dure. Il n'y a pas de travail, pas de sécurité. On entend les armes et les balles partout.
Ici, au Kenya, est-ce que vous avez pu vous recréer une vie ?
J'aimerais bien. Là, je travaille comme serveur. Avant, je rêvais d'être footballeur. Aujourd'hui, je veux juste continuer à travailler pour envoyer de l'argent à ma famille.
Ousmane aussi a quitté Khartoum en 2023. Il y suivait alors des études en génie civil. Diplômé ici à Nairobi, c'est vers le Soudan que ses projets se tournent.
Je ne peux pas imaginer mon futur sans le Soudan. Maintenant que l'armée a récupéré Khartoum, mes amis et des membres de ma famille y retournent. Ils essaient de reconstruire. J'y retournerai, c'est sûr.
Vous avez eu une révolution, tout ça pour ça ?
Les deux généraux viennent du même gouvernement, mais vous pouvez vivre avec l'armée. Avec les RSF, c'est impossible. Je le sais, je les ai vus, ils ont essayé de me tuer. D'abord la paix, après on cherchera la démocratie.
En 2024, les Nations Unies recensaient plus de 11 500 réfugiés soudanais au Kenya. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
Et demain nous serons dans le camp de Gorom au Soudan du Sud pour le dernier reportage de cette série de 3 rencontres que vous retrouvez aussi sur RFI.fr.
RFI, toute l'actualité. Édouard Dupénois.
3h52, en temps universel, les grandes lignes de l'actualité internationale de ce 15 avril et le Hamas qui dit examiner une proposition israélienne de trêve dans la bande de Gaza, transmise par les médiateurs égyptiens. La proposition prévoirait la libération de la moitié des otages la première semaine, en échange d'un cessez-le-feu d'au moins 45 jours et l'entrée d'aide dans le territoire palestinien. Le ministre iranien des Affaires étrangères se rendra cette semaine à Moscou pour aborder la question des pourparlers entre l'Iran et les États-Unis. Iraniens et Américains qui sont convenus de poursuivre leur pourparlers le 19 avril sous médiation omanaise. L'administration Trump lance une première étape vers la mise en place de droits de douane sur la pharmacie et sur les semi-conducteurs. Le ministère américain du Commerce a ouvert une enquête en visant à déterminer si la prépondérance des importations dans ces deux secteurs présente un risque ou non pour la sécurité nationale. Et puis en France, le gouvernement cherche à réaliser 40 milliards d'euros d'économies l'année prochaine. Le Premier ministre réunit ce matin plusieurs membres de son gouvernement, ainsi que des parlementaires ou des représentants syndicaux, notamment. François Bayrou doit donner ensuite une conférence de presse. Le dossier de l'économie africaine est le continent qui se cherche une parade, une réponse efficace à l'instabilité totale que fait peser Donald Trump sur son économie. Les droits de douane annoncés en hausse diverses et variées sont pour l'instant suspendus pour 3 mois, mais s'ils étaient rétablis pour toute la durée du mandat du président, le continent pourrait-il se retourner sur lui-même et changer de partenaire économique ? Est-ce que la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale, pourrait remplacer les échanges que l'Afrique n'effectuerait plus avec les États-Unis ? Claire Fage s'est posé la question.
La ZLECAF est encore loin d'être un marché de substitution pour les produits africains surtaxés par les États-Unis. Sur la 50aine de pays africains signataires de l'accord de libre-échange continental, seuls 8 l'ont réellement mis en œuvre, observe Benjamin Alam Neminda, chercheur en droit international à l'Université Lyon 3, et sur une poignée de produits qui seront à terme débarrassés de taxes.
Vous avez le Cameroun qui a commencé à lancer une cargaison de thé, vous avez le Kenya avec des piles, vous aviez le Rwanda avec le café instantané, vous avez le Ghana, l'Afrique du Sud avec quelques produits manufacturés. Ils ne sont pas encore nombreux. Cette volonté, elle est toujours conditionnée, si vous voulez, à la capacité des pays à se spécialiser sur des chaînes de valeur utiles aussi pour les autres pays africains. Je pense qu'on peut là se dire à l'horizon 2030, 2040, ça peut commencer à fonctionner.
Les obstacles, en particulier l'insuffisance des infrastructures, ne doivent pourtant pas empêcher de tirer profit de la ZLECAF dès aujourd'hui. Juge Honoré Mondo Mobé, il est enseignant à l'université de Douala.
On ne va pas attendre que toutes les routes en Afrique soient asphaltées. On ne va pas attendre que tous les pays aient le meilleur système de communication pour que la zone de libre-échange se mette en place. À chaque étape, il faut en profiter. Actuellement, le Cameroun exporte des lingots d'aluminium vers l'Algérie avec un taux de douane qui va s'annuler au bout de 10 ans. Pourquoi voudrez-vous que les pays exportent vers les États-Unis? La zone de libre-échange continentale est plus importante aujourd'hui que jamais.
La zone de libre-échange interafricaine pourrait aussi, selon lui, être un outil d'indépendance vis-à-vis des États-Unis qui achètent finalement moins de marchandises à l'Afrique qu'ils ne lui vendent actuellement de services.
Ça se retrouve au niveau bancaire, au niveau des services d'engineering, dans le secteur pétrolier et dans le secteur minier. Si les Africains décident de ne plus importer des services aux États-Unis, c'est une perte de plus de 125 milliards de dollars pour les États-Unis. D'où la nécessité de mettre en place le protocole numéro 2 de la zone de libre-échange continentale qui permettrait aux Africains d'échanger les services intra-africains sans contingentement.
Une autonomie atteignable en 5 ans, affirme l'expert camerounais. L'Afrique pourrait aussi faire davantage appel aux services indiens ou européens.
Claire Fage pour le dossier de l'économie africaine. Vient à l'actualité des matières premières et l'Europe qui semble enfin se décider à taxer plus lourdement les engrais russes d'ici 3 mois. Et plus de 3 ans donc après l'éclatement de la guerre en Ukraine. Les engrais sont une manne financière pour Moscou, mais ils sont aussi indispensables à nombre d'agriculteurs européens. Et à l'heure actuelle, ils semblent presque irremplaçables. Marie-Pierre Olfant.
Le projet a été approuvé par les États membres au mois de mars. La rapporteuse du texte l'a présenté la semaine dernière aux groupes parlementaires qui ont déposé des amendements dans la foulée. Le prochain vote est attendu mi-mai. En attendant, le lobbying des producteurs d'engrais et des agriculteurs qui défendent chacun des intérêts diamétralement opposés continue. En l'état actuel du texte, l'Union européenne souhaiterait limiter l'entrée des engrais russes dès juillet, mais de manière progressive via des taxes qui augmenteront pendant 3 ans. L'année dernière, un quart des besoins européens en engrais a été fourni par la Russie. L'Europe espère pouvoir s'en passer en augmentant notamment la production des 27 pour compenser ce qu'elle n'importera plus de Russie. Mais cette ambition relève du défi car la filière européenne de production des engrais accumule les problèmes structurels en plus de devoir faire face à un coût du gaz beaucoup plus élevé qu'ailleurs dans le monde. Dans tous les cas, l'Europe devra aussi continuer à importer et à augmenter la part de ses fournisseurs non russes. Et là, le défi sera aussi le prix, car ceux pratiqués par la Russie qui disposent de quantités de gaz à domicile sont ultra compétitifs. Dans ce contexte, les agriculteurs européens ne sont pas rassurés et demandent un délai d'un an à la Commission européenne pour ne pas se retrouver pris au piège. Certains producteurs d'engrais russes font part de leur inquiétude de voir ce marché se fermer. On peut imaginer que cela va compliquer leurs affaires dans un premier temps au moins, et que cela grèvera peut-être aussi temporairement les recettes de Moscou liées aux taxes d'importation sur les engrais. Mais les engrais russes trouveront toujours preneur, assure un négociant. Ils prendront la place d'autres origines qui remplaceront, elles, en échange les engrais russes en Europe comme un grand jeu de chaises musicales. La Russie aurait déjà d'ailleurs commencé à reporter une partie de ses exportations vers l'Inde et le Brésil, tout en maintenant un niveau élevé de vente à la Chine. Comme un pied de nez aux Européens, la Russie prévoit même d'augmenter ses exportations d'engrais en 2025.
Marie-Pierre Olfant pour l'actualité des matières premières à 5h58 ici à Paris. Et pour boucler cette demi-heure d'informations africaines réalisée par Thierry Le Saint, merci à lui. Sébastien Duhamel vous accompagne pour un nouveau point complet sur l'actualité du continent dans une demi-heure. En attendant, je passe un salut particulier ce matin à J.R. Adonio. Vous nous écrivez depuis Kisangani en République démocratique du Congo, où vous nous suivez sur le 105FM. Vous nous avez écrit sur africematin@rfi.fr. Merci pour votre fidélité. Le journal, c'est dans tout juste une minute.
Bonjour, c'est Juan Gomez. En Guinée, c'est une décision dénoncée par plusieurs partis politiques. Le référendum constitutionnel et les élections qui marqueront la fin de la transition ne seront pas organisées par la commission électorale, mais par le ministère de l'administration du territoire. On en parle.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.
Afroclub, le hit des platines avec DJ Facemaker.
Je vous retrouve deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, dans l'Afroclub, terrain incontournable des musiques afro-urbaines d'Afrique et de ses diasporas. Deux fois plus de groove, une séquence rétro indispensable et en prime, une vidéo des tendances de la semaine à voir sur RFI Musique et tous nos réseaux sociaux.
Afroclub, le hit.